Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
On a l'habitude dans la vie courante de dire que l'on peut sortir grandi des crises de la vie, mais qu'en est-il à l'échelle d'un pays ou plus? Une question grave à laquelle on ne répond avec sagesse qu'avec quelques cheveux blancs, et cela tombe bien car c'est le cas de nos deux invités de ce matin, des cheveux blancs et de la sagesse il en faut pour tenter d'y voir clair dans l'actualité, d'essayer de tirer par exemple de la crise algérienne ou de celle des gilets jaunes, des enseignements qui font grandir. Le grand débat, voilà, ils débattent même pendant l'introduction maintenant. Autour du plateau, Bernard Ribal, agrégé et docteur en philosophie, président des Semaines Sociales de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Emmanuel Perrier, prêtre religieux dominicain, enseignant au Studium du couvent des Dominicains à Toulouse. Bonjour.
Bonjour à tous.
Et voilà, je vous ai taquiné en introduction, mais alors j'avoue que les émissions d'actualité, c'est pas toujours facile de trouver des introductions, parce que pour arriver à trouver un fil rouge entre la crise algérienne, celle des gilets jaunes, voire même la réforme de l'assurance chômage, c'est un numéro d'équilibriste. Donc le programme est donné, on va parler donc de la crise algérienne dans cette première partie, la deuxième de la crise des gilets jaunes et du grand débat, et à la fin vous tirerez de votre chapeau des sujets que vous avez choisi de mettre en avant, et donc Bernard Ribal, vous, ça sera entre autres la réforme de l'assurance chômage. Si on commence à se pencher donc sur la crise algérienne, alors on va essayer comme chaque fois de faire un peu de pédagogie pour ceux qui voudraient rattraper le train en cours de route, qui auraient suivi ça de loin. Le 10 février dernier, Abdelaziz Bouteflika, donc président en exercice, a annoncé qu'il allait se représenter à l'occasion des prochaines élections. Élections donc prévues pour le 18 avril prochain. S'en est suivi de vastes mouvements de manifestations en Algérie. Voilà, on dit des millions de personnes sont descendues dans la rue, entre autres des femmes. Jeunes ou d'un certain âge, qui semble-t-il en Algérie ne s'étaient pas vus depuis longtemps. On dit que le mur de la peur est tombé, et je lus entre autres dans le journal La Croix. S'en est suivi, pour faire court toujours, un départ d'Abdelaziz Bouteflika en Suisse, dit-on, pour des questions de soins. Et cette semaine, c'était je crois le 26 mars, le général Ahmed Gaïd Salah a franchi le Rubicon en annonçant qu'il demandait que soit... il demandait à ce qu'on ait recours à l'article 102 de la Constitution algérienne qui prévoit l'empêchement du chef de l'État. Bref, une manière de mettre Bouteflika sur la touche. Beaucoup de choses à dire sur ce sujet. La première, peut-être, allez, si on commençait par les femmes. J'ai cru comprendre que c'était une des grandes différences avec d'autres grandes manifestations précédentes. C'est la présence importante des femmes dans la rue. Bernard Ribal.
Oui, je me permets de...
Permettez-vous.
Pas de corriger, mais d'ajouter quelque chose à votre présentation. C'est que entre l'intervention du général, chef de l'armée, pour... en quelque sorte dégager le président en exercice Bouteflika. Entre-temps, Bouteflika lui-même avait dit qu'il ne se représentait pas.
Oui, en effet, vous avez raison.
Voilà. Mais qui restait pour l'instant au pouvoir pour la transition.
Donc, pas de cinquième mandat, c'était le 11 mars dernier.
Voilà. Donc finalement, l'intervention du général est encore plus agressive, en apparence du moins, puisque ce n'est pas simplement le fait qu'il ne se représente pas qui est demandé, c'était déjà fait. Mais c'est le fait qu'ils partent tout de suite. C'est donc plus ferme. Mais j'ai bien peur qu'il y ait là un piège. Un piège dans lequel les manifestants risquent de tomber. Je ne vois pas d'ailleurs comment ils feraient pour ne pas y tomber. Le piège, c'est que le général chef d'état-major des armées est du même avis que les manifestants.
Ce qui n'a pas toujours été le cas, mais...
Ah, ce qui n'a pas toujours été le cas. Parce que dans le canal historique de l'Algérie, l'armée, la LN, est très liée au FLN, le parti. Et d'ailleurs, c'est plutôt la LN qui dirige le FLN que le FLN, la LN.
Le FLN, rappelez en deux mots, pour FLN, pour ceux qui ne sont pas familiers.
Oui, le FLN, c'était le...
Le parti, et la LN, c'est l'armée.
Voilà.
Front de Libération.
Voilà, c'est chercher le mot
F. C'est le parti et l'armée, c'est le...
Voilà. Il y a le civil et le militaire, mais le FLN, c'était pendant la guerre d'Algérie entre la France et les indépendantistes, c'était le Front de Libération Nationale, c'était à la fois...
Le parti d'indépendance.
Le parti et l'armée en même temps. Après, il y a eu... Bon, peu importe. Et moi, je suis très inquiet du danger, du risque, de l'inconnu plutôt, parce que je n'ai pas d'informations bien précises. Les observateurs sont confus là-dessus, ils s'avouent eux-mêmes confus. Mais j'ai une crainte d'un inconnu islamiste. Parce que il y a, entre 1992 et 2002, c'est pas vieux ça, il y a eu 10 ans de guerre civile. Guerre civile sanglante.
Guerre civile terrible.
Sanglante. Des dizaines de milliers de morts.
200 000
morts.
Plus que la guerre d'indépendance.
Quelque chose de terrible, Et que Bouteflika a assuré la fin. Puisqu'il arrive au pouvoir en 99, et que ça finit en 2002, en gros. C'est difficile de fixer des dates, mais...
Mais quel lien vous faites entre la déclaration du général... Alors, Ahmed Gaïd Salah,
ils sont tous les deux tout à fait d'accord, à mon avis. Bouteflika, qui est très âgé, il n'a pas forcément, à titre personnel, envie de continuer, mais il a envie que son système continue, ou du moins que les islamistes ne reviennent pas. Le général qui était son ami jusqu'à présent, et je crois d'ailleurs qu'ils ne se sont pas fâchés, le général prend les devants, donne raison aux manifestants, mais en même temps, il prend la main. C'est plus les manifestants qui ont la main.
D'accord, mais lui...
Il ne peut pas être soupçonné
d'islamisme, en l'occurrence.
Ah non, si c'est lui qui gagne, il n'y a pas de danger islamiste immédiat. Encore qu'on ne sait pas ce que sont les cellules dormantes des islamistes radicaux. Mais... ce général finalement risque de voler aux manifestants la victoire parce que il va nous mettre quelque chose qui ressemble à Bouteflika, va mettre en place quelque chose de semblable.
On va donner la parole un peu à Emmanuel Perrier, vous pourrez continuer à développer votre pensée. Juste, je revenais sur la foule, parce que c'est vrai que je pense qu'un certain nombre d'auditeurs ont lu des choses, évidemment, ont entendu des choses dessus, et donc cette crainte islamiste, les gens l'ont en tête. Pourtant, ceux qui sont descendus dans la rue, apparemment, alors peut-être ai-je lu trop vite, ne donnent pas l'impression d'être d'abord des islamistes. Contrairement, semble-t-il, à des manifestations qui avaient eu lieu en 1988, où c'était parti des mosquées. Là, on dit que c'est des jeunes, c'est des jeunes femmes, et qu'il y a une aspiration peut-être démocratique. Ce ne sont pas les islamistes qui sont dehors. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'il faut le comprendre, Emmanuel Perrier ?
Je pense, la première chose à faire, c'est d'éviter toute projection de nos propres visions sur la situation algérienne. C'est une autre situation. J'ai l'impression que, d'après ce que j'ai lu, c'est que il y a deux populations en Algérie. Il y a, on va dire, une population plus jeune, plus urbaine, qui aspire effectivement à sortir d'un régime autoritaire qui est à bout de souffle et qui ne fonctionne qu'au profit des oligarques. C'est-à-dire que il y a une oligarchie qui tient l'Algérie, qui en profite et qui déverse de l'argent
pour gagner du temps,
pour faire durer le régime. Et le problème, c'est que ça n'offre aucune perspective ni politique ni de tout simplement de vie quotidienne à la jeune génération qui, elle, est très... qui est sans perspective, sans horizon, sans espoir particulier, et qui pâtit en plus du manque de, par exemple, d'engagement dans une politique de formation, des politiques de développement industriel, etc.
C'est donc plus de 25% de chômage chez les jeunes, donc c'est les moins de 25 ans.
Oui, enfin plus de 25%, c'est le même niveau qu'en France, je rappelle quand même.
Oui, sachant que...
D'ailleurs, le taux global est le même, 10%.
Ça vaut le coup de le rappeler, en effet, même si ça peut sembler bizarre.
C'est pas mal de rappeler que nous sommes un pays qui est aussi problématique de ce qu'on est là.
Voilà, disons que là, la différence, c'est qu'il y a 45% de la population qui a moins de 25 ans.
Tout à fait, exactement.
Voilà, c'est quand même une différence majeure.
Mais le problème, c'est que cette population, c'est elle qu'on voit là, mais c'est pas la seule qui vote. Et il y a une très grosse majorité qui est derrière. Et pour le coup, le problème, c'est que le danger, c'est surtout ne pas revenir à 1991, lorsqu'il y avait eu des élections, qu'un candidat islamiste était arrivé au pouvoir et que l'armée a dû suspendre le processus démocratique, prendre le pouvoir, remettre d'aplomb, et on est parti sur 200 000 morts.
Hein. Donc cette autre partie de la population, c'est les campagnes qui seraient
islamisées. C'est pas seulement les campagnes, il y a toute une part des villes qui ne se manifestent pas là,
mais c'est pas
mais
ceux qui
n'en pensent pas moins
aujourd'hui. D'accord.
Et qui votera. Hein. Et il faut pas le problème de fond, c'est que on est depuis les années 70, donc on est à 50 ans maintenant, dans lequel l'islam auquel les Algériens ont été formés, c'est l'islam qui a été importé d'Arabie Saoudite, puis de Turquie, et qui est un islam qui n'est pas l'islam d'origine des peuples berbères, qui n'est pas l'islam du Maghreb, mais qui est un islam violent, radical, islamiste, et le problème, c'est qu'il y a eu une espèce de lavage de cerveau de toutes les générations, et toutes les générations ont subi ça. Donc, on peut dire, oui, mais il y a une grande frange qui ne veut pas des islamistes, oui, sauf que l'emprise, les mentalités ont été façonnées, parce que ce sont eux qui ont dominé les écoles. Donc,
mais ça veut dire que le pouvoir algérien, pardon, hein, dans l'ignorance, mais a accepté en partie un financement de l'islam par ses puissances étrangères.
Mais oui, parce qu'il n'avait
pas son propre sol.
Mais exactement, mais parce que c'était à l'époque un moyen de faire venir c'est lié aux années 70, à l'époque où il fallait un régime à la fois neutre du point de vue religieux, mais qui en même temps donnait toute sa place aux religieux. Et on a fait venir, à ce moment-là, l'Arabie Saoudite a fait venir des prédicateurs. C'est eux qui ont généré le problème du GIA et du FIS dans les années 90. Donc, aujourd'hui, personne n'a envie que ça recommence, sauf les islamistes, certainement pas, peut-être pas dans les dimensions des années 90. Donc, le danger, c'est que ce processus démocratique, peut-être qu'il y a un côté où il est nécessaire, et d'un autre côté, personne n'a envie de faire sauter la cocotte minute, parce qu'il faut arriver à maintenir le régime sans que ça dérape. Et je finis par là, il faut prendre en compte aussi un autre aspect, qui est que de toute façon, les oligarques qui sont au pouvoir, qui composent actuellement avec le général Salah, c'est-à-dire le clan Bouteflika, concrètement, vous avez, donc c'est le frère qui gouverne depuis 2013 en réalité, hein, et il gouverne avec, il a trois frères, une sœur au conseil de gouvernement, bref. Donc c'est un clan d'oligarques économiquement puissants, dont le but est de rester, parce qu'ils tirent tout leur argent de ça, de la rente, notamment de la rente gazière ou pétrolière, et ils ont un soutien de l'armée. Est-ce qu'ils arriveront à maintenir ce soutien? Mais auquel cas, c'est le processus démocratique qui en pâtira.
Bernard Ribal, on dit donc de l'Algérie qu'elle serait à l'agonie, ai-je lu, entre autres donc dans le journal Le Figaro, une économie à l'agonie, puisque la rente pétrolière ne va qu'en diminuant. On compare parfois même potentiellement la situation de l'économie algérienne à celle du Venezuela, en disant qu'elle pourrait prendre la même tournure, qu'il n'y aurait plus d'industrie. Est-ce que de fait, quand on entend de certains politiques, entre autres Jordan Bardella, donc la tête de liste Rassemblement National aux élections européennes, craindre une submersion migratoire, est-ce qu'il faut aussi, est-ce que sur ce point-là, c'est une crainte justifiée?
Ça pourrait l'être, il faut voir comment vont évoluer les événements. Il y a parfois des signaux faibles qui sont un peu alarmants. Il y a eu un attentat à Constantine. Alors, un attentat, c'est pas 10 attentats, c'est qu'un seul attentat, mais qui a échoué d'ailleurs. Enfin, il y a quand même deux blessés. Il y a quand même deux blessés, mais ça aurait dû être pire. Donc, il y a un réel danger. S'il y avait de nouveau la guerre civile, on aurait effectivement une vague d'émigration en partant de l'Algérie, et ça se dirigerait principalement vers nous, vers la France. Justement, c'est un petit peu ce que je voulais dire là maintenant. Le frère Émile Perrier a bien fait de souligner qu'il ne faut pas
C'est l'effet printemps arabe, on a l'impression. Voilà. C'est ce que décrit le frère Emmanuel Péris.
Mais en fait, tous les printemps arabes ont donné des catastrophes.
Hein. Justement, c'est pour ça que je le précise.
Mais la chronologie est différente. Hein. Dans les printemps arabes, on avait le printemps arabe d'abord, l'islamisme après. Et la dictature, enfin. Là, on a... l'islamisme est déjà, a déjà fait 10 ans de dégâts. Hein. Et donc, a enraciné des leçons. Mais ne ramenons pas à un francomorphisme, l'analyse de l'Algérie, c'est ce que vous dites et vous avez raison. Et en même temps, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est ce qui se passe au Sahel. C'est Al-Qaïda en Maghreb islamique, c'est le Daesh du coin, quoi. Et aujourd'hui, l'Algérie, et l'armée algérienne, justement, dont on parlait à l'instant, est un allié objectif, précieux, de la France et des pays qui sont dans l'Alliance.
Deuxième armée d'Afrique.
Voilà. Et c'est une armée efficace, qui est devenue efficace. C'est une armée efficace qui a 140 000 hommes et qui est bien d'accord. Alors, elle n'est pas dans la coalition, hein, l'armée algérienne, mais elle joue davantage d'importance que si elle y était d'ailleurs. Hein, elle intervient de manière très très efficace. Il ne faut pas oublier qu'il y a la Libye qui est juste à côté, et qu'alors là, c'est l'auberge espagnole du terrorisme, quoi. Hein, et donc, si on a un intérêt national, alors c'est un peu grave de dire ça, parce que l'Algérie, c'est d'abord l'intérêt des Algériens. Mais s'il y a un intérêt national français et européen, c'est de souhaiter que le général en question finisse effectivement par l'emporter, quitte, je l'espère, à ce qu'il fasse des réformes démocratiques positives dans le sens de ce que vous disiez, mais que ce ne soit pas surtôt les islamistes qui l'emportent tôt ou tard, parce que là on va à la catastrophe. Là.
J'ajouterais oui, juste, c'est en fait comment dire, c'est le problème des mauvais plis, c'est-à-dire que quand on s'est mis à avoir de mauvaises habitudes, on arrive à un moment à un état d'épuisement parce que le mauvais pli vous pourrit la vie et qu'il y a un moment où il faudrait vraiment changer de manière de faire. Je pense ici au fait que depuis l'installation du pouvoir du FLN, l'Algérie s'est installée dans un système de corruption sur la rente pétrolière, dans lequel systématiquement les investissements n'ont pas été faits. Systématiquement, on a vécu, et c'est effectivement...
À différence de d'autres pays du Maghreb, ai-je lu, qui, eux, ont pris les devants de la transition.
Mais c'est la malédiction de tous les pays qui ont trop de pétrole.
Et oui. Hein, ah oui,
c'est la malédiction de tous les pays qui ont trop de pétrole.
Fois.
Ça engendre beaucoup de corruption, ça engendre beaucoup de on se replie sur ce qu'on a. Et le problème, c'est qu'on repousse. Est-ce qu'il y a une frange qui est capable de prendre d'homme politique qui est capable d'accéder au pouvoir, mais d'arrêter ce système qui jusqu'à présent a tenu. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, il va plus tenir très longtemps, et ça, tout le monde le sait. Donc voilà, c'est l'enjeu. En tout cas, je crois qu'il y a un enjeu réel de cette élection, de ce point de vue-là. Et comme le disait Bernard Ibal, tout ce que nous, de notre côté, nous pouvons souhaiter, c'est surtout que l'Algérie ne soit pas déstabilisée.
Et ben voilà, ils n'ont pas forcément des cheveux blancs tous les deux, mais comme quoi ça vaut le coup de les inviter pour prendre de la hauteur sur tout cela. C'est pas forcément ce qu'on lit en effet partout, ou en tout cas ce que j'ai trouvé immédiatement en me plongeant dans la crise algérienne, pourtant dans différents médias. On fait une première pause et puis on vous retrouve pour parler de la crise des Gilets jaunes.
Ones, linanis, regine,
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand débat, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin avec autour du plateau aujourd'hui. Nos deux invités sont Bernard Ribal, agrégé et docteur en philosophie, président des Semaines Sociales de Toulouse, et Emmanuel Perrier, prêtre religieux dominicain, enseignant au studium du couvent des Dominicains à Toulouse. Chose promise, chose due, on va donc parler dans cette deuxième partie de la crise des Gilets jaunes. Et donc aussi du grand débat. Alors moi, comme introduction, j'ai choisi de me pencher un peu sur l'acte 18 des Gilets jaunes, puisque demain, ça sera l'acte 20. Donc c'était pas le week-end dernier, mais le week-end d'avant. Ce fameux week-end qui a vu ces violences sur les Champs-Élysées. Quelques chiffres, 10 000 Gilets jaunes. Donc en France, 10 000 gilets jaunes, 237 interpellations, donc des boutiques qui ont été vandalisées, voilà, certains grands restaurants, des kiosques à journaux incendiés, un incendie dans un immeuble où des civils ont failli périr. Bref, selon les forces de l'ordre, c'était vraiment le chaos, avec donc pas mal d'interrogations quand même sur les consignes qui ont été données aux forces de l'ordre. Alors, on va dire, il y a deux types d'interrogations autour de ces manifestations. C'est à la fois des supposées, enfin, des violences policières. On va dire que l'exemple, c'est cette fameuse Geneviève Leguet, cette femme de 73 ans donc, qui a été bousculée lors d'une manifestation, et des consignes qui ne seraient pas claires, c'est-à-dire qu'en fait les Français s'étonnent qu'on puisse comme ça saccager les Champs-Élysées sans que rien ne se passe. Alors il y a beaucoup de choses à dire certainement sur ces violences, des choses assez contradictoires, mais vous, quel a été votre sentiment? Ou ce que vous avez lu, par exemple, Emmanuel Perrier, j'imagine que vous êtes posé la même question que les Français, c'est comment ça se fait qu'on laisse faire ça? Quelle réponse vous trouvez à ça?
Ah si, mais ça c'est une pratique habituelle des pouvoirs, de tous les pouvoirs. C'est-à-dire que quand vous êtes face à un mouvement social qui suscite la sympathie de la population, si vous voulez le discréditer, il faut qu'il y ait un minimum, laisser le champ libre, un minimum de violence, au besoin d'ailleurs en les suscitant, hein, c'est une vieille tactique, c'est-à-dire que vous avez des nervis, des petits bras qui viennent faire un peu le coup de force, pour que ça dégénère, et pour que le mouvement perde de sa crédibilité.
Et ça, si je peux me permettre, c'est des choses donc, qu'on pouvait entendre ou lire, mais est-ce que vous avez des choses qui peuvent étayer ou prouver ce que vous avancez? Parce que c'est des accusations graves de dire ça.
C'est-à-dire que, écoutez, quand vous avez...
Ce que disent les syndicats de police Alliance, c'est qu'ils disent, en fait, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a des black blocs, donc des casseurs professionnels qui se mêlent à la manifestation, qu'il y a, de la part des gilets jaunes, de la part d'un ventre mou, entre guillemets, une forme d'autorisation, en fait, et d'accompagnement de cette violence, et que du coup, pour les forces de l'ordre, c'est très difficile d'intervenir, parce que le rapport de force n'est pas en leur faveur.
Je pense qu'il y a aujourd'hui quelque chose qui devient un peu hors de contrôle. C'est pas pour rien que le préfet de Paris a perdu son poste. Hein. Mais il y a eu une... comment dire... La meilleure manière de le comprendre, c'est vous prenez le nombre de manifestants annoncés par le ministère de l'Intérieur à Paris, et vous prenez le nombre de policiers que le ministère de l'Intérieur avait dit qu'il avait mobilisé pour la manifestation.
Ah, je crois que c'était 1500, il me semble. Hein.
Oh non, c'est beaucoup plus.
De policiers, hein.
Mais oui, mais c'est beaucoup
plus. Autour des Champs-Élysées.
Ah, autour des Champs-Élysées, mais sur Paris, on est plus à plus de 10 000. Donc, si le gouvernement avait voulu arrêter des casseurs, il aurait fait ce qu'il a fait sur un certain nombre de gilets jaunes, c'est-à-dire que vous mettez des filtres de police dans toutes les gares, et c'est comme ça qu'on a empêché beaucoup de gilets jaunes de venir à Paris, vous mettez des filtres de police au niveau des stations de métro, vous mettez etc., vous fouillez tout le monde, etc., et vous pouvez tout à fait sécuriser un lieu, avec cette ampleur du nombre de policiers.
Bon. Tout le monde ne vient pas par le métro aussi. On peut, dans ces cas-là, il faut ceinturer tout le périph' parisien aussi. C'est...
Non, vous maîtrisez des points d'accès. C'est pas mon rôle dans les techniques policières.
C'est compliqué hein, d'arriver à tirer les choses au clair.
Mais en tout cas, quand vous avez un tel nombre de policiers, on ne va pas me dire que vous n'êtes pas capable de concentrer votre attention sur les casseurs. Et j'ai peur, enfin, c'est pas que j'ai peur, c'est ce qu'on a vu, c'est que ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Et dès le début, alors aujourd'hui, que ça soit hors de contrôle, peut-être, hein, parce qu'il y a une exaspération de tous les niveaux, je comprends. J'imagine les policiers, après 18 samedis, passer toute la journée à la pression et la tension que ça demande. J'imagine la fatigue, l'épuisement des ressources financières, l'épuisement, etc., de tous les gilets jaunes qui vont et qui, en plus, sont exaspérés de la manière dont ils sont traités et par la police et par les médias. Et puis, j'imagine aussi l'exaspération de la population. Donc, il y a une exaspération, mais il ne fallait pas, dès le début, jouer avec le feu.
Bernard Ribal, je suis désolé, je m'excuse auprès des auditeurs, parce que c'est vrai que je n'ai pas des chiffres précis et sur le nombre de manifestants, ni sur les forces de l'ordre, en tout cas spécialement à Paris et aux Champs-Élysées. Voilà, je me suis noté beaucoup d'autres choses, mais voilà, j'ai par exemple noté une chose, cette fois elle est précise, c'est qu'on a beaucoup parlé des Champs-Élysées, mais qu'il y a eu ce week-end-là 195 départs d'incendie dans la capitale, dans Paris intramuros, donc pas seulement sur les champs, donc c'était l'affolement. Donc on a vu beaucoup les images des champs, mais peut-être pas du reste. Comment vous analysez, vous, cette chose incompréhensible pour les Français que nous sommes, que les champs soient saccagés comme ça?
Ce qu'on observe tous, là, il y a un point d'accord là, c'est sur le fait que de samedi en samedi, sauf exception, ils sont de moins en moins nombreux et de plus en plus violents. Ou du moins, il y a de plus en plus de violence. Je serais plus alarmiste que ce que vous avez dit, et peut-être, m'excuse de l'expression, un peu moins complotiste. J'entends bien que tous les gouvernements essaient de faire discréditer un mouvement en laissant, voire même en favorisant la violence. Mais je crois quand même qu'il y a vraiment une ultra-gauche qui a conduit cette violence au départ, que maintenant il y a des gilets jaunes qui ne proviennent pas de l'ultra-gauche, qui sont, on les entend parler à la télévision, qui sont entrés dans cette violence elle-même.
Donc, qui sont en sympathie, on va dire.
Que la dame dont vous avez parlé de 73 ans...
Geneviève Leguet,
est quand même porte-parole...
Militante d'attaque. Hein.
D'attaque, porte-parole. Porte-parole d'attaque, et avec un nom pareil, attaque, c'est pas forcément l'association la plus pacifiste qui existe.
Hein. Alors je dis juste une chose, c'est que ce qui est ressorti, c'est qu'elle était dans une zone interdite aux manifestations, voilà. Qu'elle a eu des sommations, qu'elle a pas bougé, voilà. Et après que les CRS ont donné la charge, elle aurait même pas été bousculée par un CRS, mais par un caméraman. Voilà. Alors je vais pas vérifier auprès de 10
médias
différents. Moi non plus,
mais...
je l'ai entendu.
On ne va pas dans une manifestation dont on voit. Tout le monde sait que ça va être. Il y a des choses violentes.
En zone interdite. Hein.
Mais oui, on ne va pas. C'est pas sérieux.
Ouais,
donc Bernard Ribal, allez jusqu'au bout.
Alors, ce que je veux dire, c'est
moins
que...
Moins complotiste, mais plus alarmiste, ça veut dire quoi?
Plus alarmiste parce que je crains qu'on aille vers un populisme dangereux. Un populisme qui, comme beaucoup de populismes, débouche souvent, l'histoire l'a montré, sur des totalitarismes, quoi. Parce que, qu'est-ce qu'on entend? On entend de l'antisémitisme parmi les gilets jaunes. On entend aussi, et depuis longtemps, depuis le début des gilets jaunes, l'anti-élitisme. L'anti-élitisme qui est le bréviaire des populistes prêts à faire le Reichstag. À l'incendie du Reichstag. D'ailleurs, il y a eu des attaques de monuments publics, de ministères. On a cassé la tête de Marianne sous l'Arc de Triomphe. Il y a l'anti-parlementarisme. C'est très très grave, l'anti-parlementarisme. Moi, je ne dis pas que les parlementaires sont exemplaires, qui font tous leur boulot, c'est pas ça.
Plusieurs fois, d'ailleurs, l'Assemblée nationale a été prise d'assaut.
Oui. Et donc, cet anti-parlementarisme, anti-élitisme, antisémitisme, tout ça me gêne beaucoup et me fait penser à effectivement un réel danger. Maintenant, on est peut-être en train de l'éviter par le fait que la police s'est mise à être la police. Et surtout par le fait que le grand débat prend le pas, sur les gilets jaunes, mais peut-être que j'en reparlerai après.
Alors moi, allez,
juste quand même...
Oui, rapidement, parce que j'aimerais qu'on se pose deux, trois autres questions, mais allez-y.
D'accord. Mon argument n'était pas complotiste, c'est de la stratégie politique depuis toujours.
Oui, oui.
Le sac sous l'époque de Gaulle.
Non, vous avouerez que c'est une accusation grave et que.
Mais vous ne l'étayez
pas complètement. C'est...
Mais évidemment que si. Vous voulez arrêter des casseurs,
D'accord, mais vous n'avez pas de preuves pour dire ça, c'est ça que je veux dire. C'est...
Ben, ça ressortira, comme toujours. On sait très bien qu'à l'époque de Gaulle, il y avait le sac. On sait très bien que Julien Drey, c'est admis, je veux dire, Julien Drey a dirigé les groupuscules d'extrême-gauche dans toutes les manifestations de la gauche des années 80-90. Ça fait partie. Quand il y a eu la manif pour tous, pourquoi est-ce que les FMN se promenaient dans la manif pour tous sans qu'elle ne soit jamais... arrêtée. Pourquoi est-ce qu'elle venait à protéger par la police ? C'est de la bonne guerre. Le seul problème, c'est qu'il y a c'est normal, c'est de la stratégie politique. Mais il y a un moment où la bonne guerre, elle échappe parce que justement, on joue avec le feu. Et là, j'ai peur qu'on joue avec le feu. On est joué un peu trop.
Alors moi, j'ai une question à vous poser autour de l'utilisation de la violence. Parce que même si les gilets jaunes ont de moins en moins la cote et les violences non plus, est-ce qu'il n'y a pas quand même dans une partie de la société française une équation que les Français ou une partie des Français valident un tout petit peu ? C'est-à-dire que ce qu'on peut lire ou ce que disent en fait cette ultra-gauche, cette ultra-gauche, c'est le capitalisme est une société violente. Voilà. Ils attaquent en fait une forme de système économique dont une grande partie de la population reconnaît qu'elle est violente. Hein. Le pape François dit pas autre chose dans Laudato si.
Mais il ne casse pas l'arc de triomphe.
Il ne casse pas l'arc de triomphe. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas, chez un certain nombre de Français, quand même le sentiment qu'il y a une forme d'impuissance du politique par rapport à un système économique et donc... qu'on peut comprendre, même si on s'en désole, certains débordements ou une exaspération des Français. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ou pas du tout, Bernard Ribal?
Les Gilets jaunes ont su exprimer un ras-le-bol qui vivait eux-mêmes et les Français se sont reconnus en assez grand nombre dans leurs revendications premières. Je citerai pouvoir vivre de son travail, je citerai une fiscalité plus juste. Il faut dire que enlever 5 euros aux allocations logement, si c'est pas bureaucratique, c'est pire, c'est pervers, quoi. Ça tient pas debout, quoi. C'est de la provocation. Ils ont relevé ce défi de façon magistrale. Je crois que politiquement, aujourd'hui, ils sont non pas contredits, mais prolongés par le grand débat. Et que là, il y a sans doute une stratégie politique là, qui consiste à ne pas s'opposer. Mais c'est un peu comme au judo, quoi, ou dans les arts martiaux. On va utiliser la force de l'adversaire. Plutôt que de
oui, mais est-ce que le grand débat répond à cette question de fond que j'ai posée ? C'est-à-dire que le grand débat, on peut se dire que c'est
une
forme de consultation nationale, mais est-ce que la réponse va être la critique d'un système économique ?
Ça, c'est le mystère, parce que on sait qu'on ne va pas changer de système économique du jour au lendemain. Là. Mais comment sortir du grand débat maintenant, hein ? Quelle conclusion tirer ? Est-ce que... Les conclusions sont d'abord contradictoires, forcément. Hein. On ne les connaît pas encore, mais on est sûr qu'elles sont contradictoires. Quand il y a des millions de personnes qui s'expriment, ça ne peut pas être la même chose pour tout le monde.
Enfin, on dit déjà que les conclusions sont contradictoires sur certains sujets. C'est-à-dire qu'on veut à la fois une transition écologique, mais pas de contraintes.
Voilà. On connaît ça.
Hein. Moins d'impôts, mais plus de services publics, etc. etc.
Depuis longtemps, les maires, même de grandes villes, veulent les gares TGV, mais pas les lignes TGV. Parce que ça fait du bruit. Et que ça prend de la place. C'est quand même difficile de construire des gares s'il n'y a pas les lignes. Il y a toujours eu des contradictions évidentes comme ça dans la vie politique, y compris locale.
Alors qu'est-ce qu'on peut espérer du grand débat, selon vous ?
Moi, je crois que ce qu'on peut espérer du grand débat, c'est d'abord une pacification du débat. Et ça, c'est réussi. Il y a eu débat authentique avec pacification du débat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de... Les gens se sont exprimés, ils ont été enregistrés, ça a été mis sur papier ou sur... On ne met plus sur papier, mais sur ordinateur. Évidemment, là, maintenant, c'est... Et là, je n'ai pas de réponse, là. Qu'est-ce qu'on en fait, quoi, hein ?
Vous disiez 600 000 personnes qui ont participé au débat, et ouais, 1,5 million de contributions, ouais, c'est ça ?
À la date du 15 mars, parce que ça s'est prolongé jusqu'au 18, et là, je n'ai pas les... J'ai pas les statistiques du 18. Mais là, est-ce que c'est bien d'employer des gens tirés au sort ? Bon, ça correspond un peu à la culture des Gilets jaunes, mais moi je suis pas sûr que tirer au sort soit un principe démocratique exemplaire. Mais j'ai pas de solution, parce que si on fait une élection, ce sera une majorité. Alors justement, c'est cette majorité qui peut être elle-même contestée. Donc c'est très difficile. Et le gouvernement et l'Assemblée nationale tireront des conclusions qui iront plutôt dans leur sens. Je ne vois pas comment ils pourraient tirer des conclusions contraires à ce qu'ils pensent fondamentalement. Ça, je ne vois pas.
Emmanuel Perrier, sur le grand débat, est-ce que vous avez... Vous voyez quelques vertus, je crois que je vous avais déjà posé la question en d'autres circonstances. Peut-être qu'entre-temps, vous avez revu un peu votre opinion, ou quel regard vous portez sur ce grand débat ?
Non, j'ai pas revu mon opinion, parce que pour moi c'est du management d'entreprise, c'est-à-dire on fait parler les gens pour qu'ils se sentent mieux. Et
donc vous avez toujours pas rempli le questionnaire sur Internet, c'est...
Ah non, j'ai toujours pas rempli le questionnaire, puisque bon, enfin bref, je veux pas rentrer. Chacun est libre et chacun pense et fait ce qu'il pense le plus profitable pour la société. C'est ça le principe de la démocratie. Mais en revanche, ce qui m'inquiète plus, c'est le fait que derrière ce grand débat, qui a aussi servi quand même de plateforme électorale pour tenir jusqu'aux européennes ou pour préparer les européennes, c'est que on sent un peuple qui est saisi de fièvre, comme cela arrive de manière très régulière en France depuis au moins deux siècles. On parle toujours des jacqueries, mais oui, enfin, les fièvres en France, les fièvres politiques, elles sont méchantes, elles peuvent être très violentes, et elles n'ont cessé d'émailler l'histoire de France depuis deux siècles. Donc, il faut faire très attention. Et ce qui m'inquiète, c'est que, à mon sens, le cœur de la question, c'est celui de la justice d'une société juste dans laquelle... On ne fait pas. On est prêt à accepter des promesses en diminution parce que le monde est difficile, etc. Et du reste, les Français ne cessent de l'admettre depuis 30 ans, hein, depuis que même 40 ans, depuis la crise, le choc pétrolier. On sait que les temps seront plus difficiles et on l'accepte et on l'accepte. Mais ce qui devient intolérable, c'est le fait qu'il y a un moment où on arrive à l'os, on n'arrive plus à s'en sortir et que on ne sent pas qu'il y ait une justice. Pour tous, qui permettent à chacun d'avoir sa place et de s'en sortir, et une vraie solidarité.
Alors, tenez un
exemple. Ça, c'est un élément essentiel de la société française. Il faut qu'il y ait une solidarité c'est le sens de l'égalité française. C'est plus du tout ce qu'elle est devenue, mais au départ, toutes les réformes, tout ce qui a été fortement accepté, tout ce qui tient au cœur des Français, c'est le souci de la solidarité, dans lequel, en l'occurrence, les élites prennent en compte et comprennent et essayent de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour aider les plus faibles, les plus petits, ceux qui ne s'en sortent pas, à mener une vie digne. Voilà. Et actuellement, on a l'impression que ça, personne n'écoute.
Alors vous aviez un exemple d'injustice comme ça à citer.
Oh, d'injustice. Alors, c'est à tous les niveaux, c'est-à-dire
quelque chose qui peut nourrir ce sentiment d'injustice.
Vous prenez un des éléments pour la France périphérique, c'est-à-dire la France hors des grandes métropoles, c'est-à-dire la moitié de la population. La France périphérique, elle est obligée d'avoir une voiture et d'utiliser et sa voiture, c'est son moyen de vivre. Hein, de se nourrir, de travailler, de visiter ses proches, etc. Et d'aller chez le médecin.
Bon. C'est mon cas d'ailleurs.
Voilà. La France périphérique. Donc, la voiture, vous ne pouvez pas dire aux Français, la voiture, c'est polluant, c'est elle qui va supporter le coût de la transition énergétique, quand, dans le même temps, vous n'êtes pas capable de taxer les voyages à l'étranger, les transports de containers. Pourquoi est-ce qu'on fait venir tant de choses de Chine qui pourraient polluer beaucoup moins la planète si on les produisait sur place.
Prenez l'exemple que vous me citiez en préparant l'émission à propos de la justice.
Ah bah, la justice, c'est aussi un autre aspect, la justice, c'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, les gilets jaunes qui sont appréhendés dans les manifestations, qui se voient quelquefois avant même d'avoir manifesté, hein, ils vont avoir une inscription au casier judiciaire alors qu'ils n'ont même pas fait une manifestation, et où ils vont écoper de peines lourdes alors qu'ils n'ont fait aucun acte de violence, tandis que dans le même temps, pour ce qu'on appelle pudiquement aujourd'hui des incivilités, beaucoup d'actes sont soit non réprimandés, soit lorsqu'on les amène devant la justice, on relâche immédiatement les plaignants. Et ce régime du deux poids deux mesures, systématique, mais on peut prendre l'école, quand vous êtes dans la France périphérique, vous n'avez aucune chance aujourd'hui, aucune chance d'entrer dans des grandes écoles, des grandes universités.
Si je peux me permettre, c'est pas vrai, enfin pas tout à fait. On a fait une émission récemment sur le déclassement des classements en France, et on avait le responsable de l'Observatoire des inégalités en France qui expliquait que l'ascenseur social en France n'était pas si en panne que ça, même s'il avait tendance à ralentir. Donc dire aucun, c'est un peu excessif.
C'est de la manipulation statistique. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites ? Vous intégrez, enfin bon, je ne veux pas rentrer dans ce débat, mais quand des gens sur les inégalités vous disent ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, en fait, on intègre dans les statistiques la discrimination positive à l'égard des banlieues. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, et ça c'est bien qu'on aide autant que possible, mais ne mettons pas dans le même camp ceux qui bénéficient de la discrimination positive et qui peuvent rentrer et qui permettent aux statistiques de l'ascenseur social de justifier que l'ascenseur social fonctionne toujours, alors que concrètement, vous regardez la population de toutes les grandes écoles actuellement, leurs origines sociales, aucune ne vient de petits agriculteurs, de petits ouvriers, de petits etc.
Allez, on va faire une pause et puis on va...
Oui.
Bernard, je suis désolé, mais si on veut parler quand même d'autre chose, ça fait 20 bonnes minutes qu'on est dessus, il faut qu'on fasse une pause. On fait une pause et on vous retrouve.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand débat, c'est donc, pour rappel, le thème de l'émission Vivante Église de ce jour, avec autour du plateau, pour ceux qui nous rejoindraient, Bernard Ribal, agrégé docteur en philosophie, président des Semaines Sociales de Toulouse, et Emmanuel Perrier, prêtre religieux dominicain, enseignant au studium du couvent des Dominicains à Toulouse. Je vous avais proposé, alors hélas, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc dans cette dernière partie, de sortir chacun un sujet de votre chapeau. Quel est votre choix, Bernard Ribal ?
Moi, je voulais proposer le thème du chômage, qui est tout à fait d'actualité, puisqu'il y a une réforme du chômage qui est en cours. De quoi il s'agit pour les... Alors, je comprends que j'ai très peu de temps, donc je vais simplifier. Ce qui se passe, c'est que les syndicats patronaux et salariaux se sont pas mis d'accord pour une nouvelle convention unédique.
Donc ils ont quitté récemment la table des négociations, voilà. C'est ce qu'on a
vu. C'est pas une négociation classique. Hein. À l'UNEDIC, c'est les syndicats patronaux et les syndicats salariaux qui décident. Hein, qui décident seuls. Sans, alors l'État après entérine ou pas. Mais c'est eux qui décident de ce qui doit être fait ou pas pour l'indemnisation du chômage. Là, tout a été faussé parce qu'il y avait une lettre de cadrage gouvernemental, presque une sommation, du moins une sommation morale, disant vous allez conclure qu'il faut le bonus-malus pour les CDD abusifs et d'un autre côté, il faut rendre beaucoup plus ferme, rigoureux, l'obligation pour les chômeurs de prendre les emplois qu'on leur propose, du moins, au bout de 2-3 fois.
Alors, pourquoi les partenaires sociaux ont quitté la... Enfin,
alors,
n'ont pas continué ces...
Dans le passé, il y a eu l'acceptation par le patronat d'augmentation des cotisations sociales concernant les CDD abusifs. On a vu après que c'était contre-productif. Déjà, dans la loi, c'est rien à mettre de nouveau, il y a déjà des sévérités par rapport à ceux qui, exagérément, refusent les emplois qu'on leur propose. Alors, on comprend très bien que quelqu'un qui sort de centrale, on ne va pas lui proposer d'être technicien de surface. Mais, et ça, c'est admis, ça. Mais alors, le problème, c'est de trouver le seuil. Hein. Et là, il y a effectivement une difficulté. Donc, maintenant, ça revient au gouvernement. Et ce qui est très gênant là-dedans, c'est la mise en cause du paritarisme. Parce que il semblerait que l'État, surtout avec les gilets jaunes, soit favorable à ne pas avoir tout le pouvoir, mais à ce qu'il y ait une certaine subsidiarité.
En tout cas, donc ça donne l'impression inverse.
Voilà, et là ça donne vraiment l'impression inverse. Et parce que il va prendre, donc comme il l'a fait pour la sécurité sociale maladie, il va le faire pareil, il est en train de faire pareil pour le chômage. Et c'est l'objet en ce moment des discussions sur la place des syndicats patronaux et salariés dans la gouvernance de l'UNEDIC. J'ajouterai, si j'ai 30 secondes,
vous les avez.
qu'on peut aujourd'hui supprimer le chômage. Je ne crois pas qu'on y arrivera par la croissance économique, par des trucs comme ça, là, non. On peut les supprimer en relisant l'enseignement social chrétien, c'est-à-dire en considérant comme travail authentique et rémunérable, parce que créateur de richesse nationale, des activités qui jusque-là ne sont pas prises en compte par la comptabilité nationale. Le travail parental, le travail associatif d'intérêt public, le travail écologique, les associations culturelles, enfin, je ne veux pas les citer toutes, les activités citoyennes, les écologiques, tout ça est créateur de richesse et doit pouvoir être pris en compte comme authentique travail avec la dignité, une dignité du travailleur, puisque c'est créateur de richesse. Et si c'est créateur de richesse, quelque part, progressivement, on doit pouvoir rémunérer, puisque c'est créateur de richesse. Voilà.
Donc, le chômage, c'est très bien. Je propose qu'on en parlera lors du prochain grand débat. Merci, en tout cas, Bernard Ibal. Emmanuel Perrier, votre choix, quel est-il ?
C'est l'échange de lettres enflammées de notre président Emmanuel Macron et d'Annegret Kramp-Karrenbauer, la présidente de la CDU, qui se sont répondus par tribune interposée il y a quelques jours.
Donc la CDU, il faut rappeler, c'est le principal parti.
C'est le principal parti, et vu l'état des sociodémocrates...
Conservateur allemand, c'est ça,
oui, vu l'état des sociodémocrates, et vu que visiblement Annegret Kramp-Karrenbauer arrive à bien maîtriser sa barque entre l'Alternative für Deutschland et les sociodémocrates, il y a de fortes chances qu'elle arrive à tirer son épingle du jeu pour devenir chancelière, la prochaine chancelière successeur d'Angela Merkel. Donc on est face à deux positions, deux visions de l'Europe. Et j'invite ceux qui nous écoutent à comparer ces deux textes ligne à ligne, parce qu'ils se répondent l'un un par un. Et ce sont deux projets européens qui s'opposent. Et pour résumer d'un trait, le projet européen du président Macron, c'est pour faire l'Europe, faisons un super État. C'est la spécialité française. Nous sommes des spécialistes de l'État depuis...
Fédéral, quand même.
Voilà, depuis Louis XI. C'est notre spécialité nationale. On sait faire de l'État. Donc, faisons un super État.
Mais c'est un terme qu'il utilise ou pas? Non, c'est
non. Mais au sens où... Regardez, vous regarderez toutes les propositions qu'il fait. C'est-à-dire, on crée des agences, on crée des banques communes, on crée des nouvelles institutions en pagaille. Ça, on sait faire. On est spécialistes en France. On fait ça depuis 8 siècles. Et de l'autre côté, l'Allemagne, elle, c'est sa spécialité, c'est la production industrielle. Donc, c'est la puissance économique par la production. Un autre modèle, et les deux modèles s'opposent littéralement, c'est-à-dire que...
Attends, juste la puissance économique par la production, ça ne fait pas un modèle politique. Donc,
Mais si, justement, c'est ça. C'est qu'en fait, l'Allemagne aujourd'hui... dit, eh bien, on ne peut s'en sortir que par un modèle économique. Anne Kramp-Karrenbauer, début, première chose dans l'Europe, c'est l'économie. Hein? C'est la première chose qui vient. Pourquoi? Parce que c'est la forme de puissance actuelle de l'Allemagne. L'Allemagne est puissante en Europe par son économie. Donc elle impose ses vues par le biais de l'économie. Et elle impose notamment toutes les propositions, toutes les réponses d'Emmanuel Macron sont très intéressantes, dans lesquelles elle dit à Emmanuel Macron, vous voulez faire l'Europe, très bien, donnez-nous plus de pouvoir sur votre économie. On va faire un porte-avions ensemble, c'est-à-dire on va acquérir les technologies de production des porte-avions, on va faire un partenariat africain, donc on va prendre vos marchés africains pour la production, on veut, etc. Donc tout est vu de cet angle-là. Et plus encore, ça devient un outil de puissance politique, puisque l'Allemagne cherche à regagner une place politique dans l'armée, par une armée. Elle a l'interdiction d'avoir une armée actuellement. Mais elle cherche à retrouver une place politique, diplomatique, par le biais de l'Union européenne. C'est-à-dire, au travers de l'Union européenne, celui qui dirigera l'Union européenne, c'est celui qui sera le plus puissant économiquement. Donc, si je fais avancer les projets européens, c'est bon pour l'Allemagne, puisque c'est moi qui dirige.
Merci beaucoup. Il y aurait des choses à dire. Promis, la prochaine fois, j'essaierai d'organiser le temps autrement. Vous avouerez que ce n'est pas toujours facile d'arriver à vous couper la parole. Je suis désolé, l'émission doit se finir. Merci beaucoup d'être venu ce matin au micro de l'émission Vivante Église. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.